Mémoire du saut du Tarn. Premier épisode de la série documentaire. L'usine sidérurgique du saut du Tarn a vu le jour en 1824 pour fermer définitivement en 1982. Jean Cabot nous fait part de sa vision d'ancien contremaître sur l'évolution des modes de production, de l'organisation du travail et donc des relations sociales au sein de l'usine, mais aussi à l'extérieur. Sa vision d'ancien syndicaliste nous permettra aussi de comprendre le dénouement de la crise suite à la fermeture de l'usine à l'automne 1982.
Cabot Jean, 81 ans, et 81 ans Saint-Julien, et une bonne quarantaine d'années d'activité professionnelle au saut du Tarn. À l'époque, je dis l'époque 1939-1940, chaque année il y avait environ de 12 à 15 jeunes gens de 12 ans, 13 ans qui passaient à Jessica d'études. Quelques-uns allaient au collège, mais la plupart regagnaient les bancs du saut du Tarn, quoi. En tant qu'apprentis, ils avaient la carrière toute tracée. Bon, j'ai eu la chance de faire 6 années de collège, et juste à la fin de la guerre, en 1946, il s'est trouvé qu'il y a eu une réorganisation assez importante de l'usine. Il y avait un centre d'études d'organisation de Versailles, appelé pompeusement Organisation scientifique du travail, et qui a essayé de recruter parmi les gens qui avaient le brevet supérieur ou le baccalauréat pour essayer de former une équipe. J'en faisais partie, et à ce titre, donc, je suis rentré au saut du Tarn en 1946. Dire que je n'existais pas, ça ne serait pas exagéré. Alors pourquoi ? Parce que mon nom est Cabot. Mais je n'étais pas connu en tant que... on ne m'appelait pas. J'étais le fils de... parce que mon père était un contremaître là aussi, vous voyez. Il faut dire que je ne m'occupe pas du... c'était un contremaître d'entretien. Je n'avais pas du tout affaire à lui. Ça n'aurait pas été tellement normal quand même. Mais tout l'ensemble des anciens contremaîtres qui faisaient bloc connaissaient mon père, mais moi, j'étais le fils d'eux. Bon, enfin, ça c'est pour la petite histoire, mais enfin, j'ai ressenti une chose... Et à ce titre-là, quand même, un gros avantage, j'étais davantage accepté que certains de mes collègues venant de l'extérieur. J'y étais pour rien, moi, hein, mais j'étais le fils d'eux. Oui. Disons qu'avant d'entrer, je faisais un peu partie de la famille. Mais ça, c'est un truc assez complexe, là, vous savez, assez difficile. Oui, bah alors, il faut dire d'abord qu'il faut voir ça par date, parce qu'il y a eu une évolution dans les fabrications. Bon, nous partons sur l'époque juste après la guerre, 45-50, et vers l'époque, disons, la partie dominante, c'était l'outillage, parce que le saut du Tarn de tout temps, c'est ce qui a fait sa réputation d'ailleurs, c'était l'outillage agricole. En gros, à l'origine, la faux pour le paysan et la lime pour l'ouvrier. Avec ça, disons qu'il y avait les deux tiers de le chiffre d'affaires qui était réalisé par ces activités. Quelques années plus tard, alors il y a toujours évidemment la fabrication de l'acier, la fabrication des limes. On vendait de l'acier, on vendait des produits laminés. Mais la plupart des productions de ces ateliers d'amont, si on peut dire, étaient absorbées par la fabrication qui venait par la suite, outillage ou lime. Oui. Mais enfin, en gros, je vous dis, il y avait la fonderie, les laminoirs et l'outillage. En plus quand même de l'outillage, du matériel agricole, des faux, des charrues, des brabants, tout un tas de petits outils, comme des presses à fromage, ça ne vous dit rien du tout, des treuillacs. Les treuillacs, c'était des treuillacs à air comprimé qu'on utilisait dans les mines, vous voyez, tout un... Et puis sont venues, dès 1950, les perforatrices. Les perforatrices qui étaient construites sous licence, mais qui étaient extrêmement performantes. Le solitaire, à ce moment-là, a dégagé un certain bénéfice à faire cette fabrication. Il y a eu aussi les machines-outils. Les machines-outils qui se bornaient aux perceuses et des fraiseuses. Mais alors là, pour se lancer de A à Z dans la fabrication des machines-outils, c'est pas forcément facile, et surtout il y avait une concurrence sévère de la part des Allemands qui étaient déjà remis en... Ça, c'est les années 50 quand même, hein, vous voyez, à peu près. Et alors, là aussi, il y a eu le... Déjà, la fraiseuse à commande numérique. Alors, commande numérique en 1960, ça posait problème. Le numérique, c'est déjà une troisième révolution industrielle. Il ne faut pas croire que... De toute façon, on le sous-traitait à une équipe anglaise qui s'appelait Ferranti. On a eu l'occasion de faire des petites machines très appréciées, comme ça, et des grosses machines, tellement grosses qu'on n'a pas trouvé des clients. Je cite le cas de la GR500, en commande informatique. On devait avoir deux clients dans le monde, Airbus et Boeing. C'était pas suffisant pour faire tourner la barre. Vous voyez, c'était une erreur, évidemment, mais enfin, c'était comme ça. Et puis après, il y a eu les vannes. Déjà là, venait travailler à Saint-Julie pour le compte de Sodetal. Mais il y en avait beaucoup qui ne mettaient pas le pied à l'usine. Enfin, c'est une façon de parler. Ils allaient à l'usine chercher des ébroches. Parce qu'il y avait certaines fabrications qui ne pouvaient se faire qu'en atelier. Mais pratiquement, toute la fabrication manuelle de la lime se faisait à domicile. Il s'agissait d'avoir ce qu'on appelle un souk, une enclume, et de frapper, vous voyez. Alors, il y avait bien quelques ateliers, mais enfin, c'était assez rudimentaire. Et en fin de compte, dans l'usine, c'était les tailleurs de lime, ou les apprentis tailleurs de lime, c'était des sans-domicile fixes, si on peut dire. Ils allaient aux outils, ils allaient aux laminoirs, là où il y avait un peu de place, quoi. Si on regarde les comptes, bon, on ne va pas les regarder pour le moment, parce que ça serait trop long, mais en fait, on s'aperçoit qu'on parlait beaucoup de lime, mais c'était une industrie tout à fait à ses débuts. Et les limes qu'on fabriquait, c'était des limes assez rudimentaires qu'on vendait au poids. Ou plus exactement en paquet. On faisait un paquet d'une lime, de deux limes, de trois limes. Mais il fallait que ce paquet corresponde à un poids déterminé. Alors, il y avait des paquets d'une livre, il y avait des paquets de deux livres, il y avait des paquets de trois livres. Entre parenthèses, on n'a jamais su si c'était des livres français ou anglais. Mais tout était copié, évidemment. Mais là aussi, il n'a pas disparu du jour au lendemain. Les limes, on prend un catalogue, on sait que c'est une plate, une mirande. À l'époque, c'était pratiquement que des plates. C'était, on les appelait... Je vous dis qu'on ne les venait pas à paquet. Alors, donnez-moi une 2,75. 2,75, vous allez aujourd'hui chercher ma chaîne 2,75, il est fou, le gars. 2,75. Ça voulait dire, pour les quincailliers de l'époque, bon, je vais te donner un paquet qui pèse 7 quarts de livre et où il y a 2 limes à l'intérieur. Je vous disais que c'était des limes alimentaires, des grosses limes, des barbages. Mais ça a une signification, ça. Ça a une signification. Il faut frapper avec un marteau d'un kilo et demi, 2 kilos. Ça veut dire que tout travail féminin est impossible, vous voyez, à l'époque. C'est-à-dire que la femme, si on peut dire, n'était pas rentré dans le solitaire en tant que fabrication des limes.
Alors, ça a changé du tout au tout. Ça a changé, et ça, assez rapidement.
Bon, on a commencé à faire ces limes, bon, ces limes convenables, et on a étendu la fabrication. Et la direction du solitaire à ce moment-là a décidé donc de frapper un grand coup. On va construire une usine spéciale pour les limes. C'est ce que vous voyez là-bas, de l'autre côté de la route qui va dans le test. Hein, tout ça, c'était les limes. Ça se situe, disons, en 1905, 1903, 1905, 1910. Et en étendant la fabrication des limes, à ce moment-là, il y a eu des grosses limes, mais il y a eu d'autres petites limes pour les ajusteurs, des limes pour les horlogers. Et à ce moment-là, ça rentrait carrément dans le cadre des possibilités de travail féminin. J'avais beaucoup de femmes, mais enfin, on n'apprend pas à tailler des limes le lendemain. Il faut donc un temps d'apprentissage assez important. Alors, ça tombait bien parce que, à l'époque, dans une famille, lorsque une fille de 13 ans qui quittait l'école, qu'est-ce qu'on va en faire, cette petite? Bon, il y a pris la couture avec maman, je ne sais pas ça. Mais là, c'était une occasion inespérée de trouver une branche d'industrie assez favorable au travail féminin. Et alors, à ce moment-là, je vous dis, il y a une quantité de jeunes filles qui sont allées en tant qu'apprenties, et pas couvrières, au saut du tas pour apprendre à tailler des limes. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'à 20, 20 ans, au moment où on se marie, tant qu'on n'a pas des enfants, ça va, on continue à travailler. Mais après, c'est fini. Il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque, pas de machine à laver, pas, enfin, toutes les commodités ménagères qu'il y a aujourd'hui pour la ménagère de moins de 50 ans, on ne l'avait pas à l'époque, quoi, pas de crèche. Je veux dire. Et il arrive souvent même que les ménages n'étaient obligés, en plus des enfants, de s'occuper des parents ou des grands-parents. Bon, elle était coincée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une chose, je dis une chose que j'en sais rien, j'avance ça, bon, mais... de voir les choses de plus près. Mais il y en avait très peu qui pouvaient continuer à suivre le travail à l'usine. Par contre, il y en avait qui continuaient à travailler à la maison. Alors là, à la maison, il arrivait souvent, et je l'ai vu ça, vous aviez un coin, une enclume dans le coin de la cuisine, et à partir de ce coin-là, on surveillait la soupe, on surveillait le gosse, bon, il y avait des possibilités. Il y a absolument impossible si la bonne femme allait travailler à l'usine. Les années 30, mais ça, à ce moment-là, les gens, c'est un peu différent. Les gens étaient formés, on ne faisait pas venir des formateurs de l'extérieur à ce moment-là. Très occasionnellement, peut-être, dans certains cas, mais enfin, ça, il ne faut pas généraliser. Par contre, il y a une main-d'œuvre étrangère. Mais ça, ce n'est pas tellement dans le contexte solitaire. Quoi. Le solitaire a bénéficié parce qu'il y a un contexte politique qui a voulu qu'il y ait un afflux. Bon, il est évident que Mussolini, il s'agitait là-bas derrière les Alpes, a fait venir en France toute une population qu'il n'appréciait pas là-bas. Bon, alors ces gens étaient absorbés par les industries locales. Et tout ce local, il y a la viscose, il y a le solutaire. Et là, à ce moment-là, on peut rapprocher ça avec la construction des logements qui a eu Arthès et qu'on appelait les logements des Italiens. C'était la violette là-haut, le saut du temps devant l'afflux. Là aussi, entre parenthèses, il n'y a pas eu des vagues extraordinaires, mais enfin bon, on a pu noter quand même des dizaines et des dizaines, je ne veux pas dire des centaines, d'Italiens qui sont venus en France et on les logeait à la violette. Il y a eu quelques Polonais, mais les Polonais se sont arrêtés à Cagnac. Hein, et puis après, il y a évidemment en 1936, où l'exode des Espagnols, je dis 36, 36, on n'en a vu aucun. Hein, c'est quelques années plus tard, hein, parce qu'on les mettait à l'abri à Rivesaltes. Alors là, mais on ne peut pas dire que ce soit des gens qui sont venus ici à Saint-Just pour nous apprendre à travailler.
Tant qu'on ne solutionnera pas l'outil de production complètement en aval, on ne solutionnera rien, non, c'est
tout. Je suis d'accord, surtout je crois que c'est mon avis, je crois qu'il faut repositionner toute la logique d'entreprise si on veut simplifier la synergie de la productique. Oh.
Bon, alors, le service de l'IME, bon, caractérisé par quoi? Premièrement, produit de qualité, il fallait produire un produit de qualité le plus bas possible, ça rien de bien original. Hein. Fabrication très ancienne, donc artisanale, mais adaptée, et, disons, à un rythme industriel, c'est pas facile. Également, proportion de main-d'œuvre féminine, avec les avantages et les inconvénients assez importantes. Fabrication qui est resté très artisanal pendant très longtemps, peut-être trop longtemps. CVC Lim a littéralement explosé au début du XXe. Et il y a eu des embauches assez extraordinaires, en quantité je parle. Hein. Et c'est-à-dire que nous nous sommes retrouvés avec un service Lim très important, mais avec... des gens qui ont été pratiquement nés à la même époque, 1885, 1900 au maximum. Les 1900, c'était des gamins, même. Vous voyez à peu près. C'est des gens qui ont eu leur façon de faire, qui ont vu le démarrage du service de l'IME avec une façon de faire particulière, avec une fabrication manuelle très importante. Et ces gens qui ont continué, mais puisqu'ils étaient nés en moyenne 1890, ils sont restés jusqu'en 1955. C'est-à-dire qu'il y a eu une équipe homogène, mais vieillissante, pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et ces gens ont conservé à peu près... Bon, ils ont évolué, évidemment, hein, il y a des machines modernes qui arrivent, il a bien fallu qu'ils se fassent retourner, qu'ils apprennent à travailler. Mais enfin, disons, vous voyez, l'esprit, la façon de faire, les organisations, c'était l'organisation du 19e. Un peu l'organisation du travail, c'est la taillorisation, c'était les chronométrages, confection de tarifs, et l'ordonnancement du travail. À ce titre, évidemment, il y avait des grands tableaux qui étaient connus de fort longtemps aux États-Unis, mais inconnus en France, qu'on appelait les tableaux planning. Ce nom, aujourd'hui, tout le monde le connaît, voilà, c'est rentré bien dans le vocabulaire français, mais enfin, à l'époque, le planning, hein, c'était quelque chose d'assez mystérieux. C'est simplement un tableau où on mettait des petits cavaliers, c'est tout. Et qui permettait ainsi d'ordonnancer les cadences. La France, à l'époque, traversait, juste après la guerre, une période de disette qu'il est difficile de concevoir un jour, à un tel point que, quelques années après aussi, il fallait 4 ans pour avoir une voiture, et pour avoir une simple douzaine de limes, il fallait 18 mois. Ça ne semble pas possible aujourd'hui. L'usine se trouvait carrément asphyxiée par une quantité de commandes, mais c'est surtout au niveau outillage où il y avait un besoin absolument énorme. Tous les quincailliers de France et de Navarre envoyaient des réclamations, des commandes et tout. Il s'agissait d'organiser tout ça et c'était pas simple. Et alors là, il est évident que lorsqu'il a fallu changer le fusil d'épaule, lorsqu'il a fallu passer à une organisation plus rationnelle, ça n'a pas toujours été facile.
Je vais qu'aller faire vos réunions en Russie. Si vous permettez, nous, on a décidé de rester ici.
Alors, comment ça s'est passé? Je vous ai parlé de planning. Alors, figurez-vous que votre entrevue de la dernière fois, ça m'a donné une idée. Je vais faire un travail là-dessus. Parce que planning, c'est un truc qui ne veut absolument rien dire. Enfin, c'est tellement général que ça veut rien dire. Parce qu'il y a le problème des tarifs. Je me suis appliqué à refaire un tarif pour expliquer aux gens comment ça se... Je ne l'ai pas fait exprès pour vous, mais au musée, c'est exactement pareil. Ça ne veut pas de quoi on parle. Il y a aussi un problème administratif. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est rien du tout à faire. Il ne s'agit pas d'être spécialisé. Il s'agit simplement d'ajouter des petites bandes ou des petits sur un planning horizontal, là, comme ça. Hein? Maintenant, tout le monde le fait. Il fallait 10 mois pour avoir une douzaine de limes. Il fallait faire en sorte que toute la commande de limes arrive à peu près dans 18 mois. Vous voyez, c'était quelque chose d'absolument réalisable. Question d'organisation, c'est tout. Alors là, évidemment, ça... Au début de 1946, un système d'organisation du travail est mis en place, appelé planning. Il va faire couler beaucoup d'encre. Inspiré du système Taylor, il est basé sur le chronométrage. Pas que ça. L'étude des postes de travail, l'économie des gestes et des manipulations. Cette question va provoquer une grande effervescence et le syndicat ne prendra jamais position nette, troublée par l'aspect scientifique et rationnel du système. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect du travail aux pièces. Du travail aux pièces, je n'oserais pas dire, ça serait profondément exagéré de dire que c'est notre président qui l'a inventé, puisque c'est travailler plus pour gagner plus. Travailler plus dans d'autres conditions. Hein, c'est ce qu'il fallait préserver. Et ça, les gens, les OS l'ont très bien compris, hein, au début, et au fil du temps, il y a tous les tarifs qui se sont usés. Et ils se sont usés systématiquement au bénéfice de l'ouvrier. Ce qui permettait aux OS d'atteindre des... Ça, on peut vérifier sur le salaire de paix. Des primes de 30-40%, des fois beaucoup plus même, à un tel point qu'en 1970, l'ouvrier... Et qui gagnait le plus au saut du Tarn, bon, je ne me rappelle plus du chiffre, c'est 3 000 ou 4 000 francs à l'époque, mais c'était un ouvrier des limes, on faisait ça année par année, et en 1974, c'était un des outils, toujours des OS. Et par contre, tous les professionnels qui étaient payés au système dit ROAM, qui était un temps loué, temps passé, temps gagné, avaient des primes qui se baladaient autour de 10-15%. C'est-à-dire des OS qui gagnaient beaucoup plus que des professionnels. Ambiance à l'atelier. Vous voyez à peu près ce que ça pouvait donner. Il ne faut pas quand même se faire trop d'illusions sur ces ambiances. Parce qu'il y avait des services qui étaient payés uniquement en Rouen. C'est le cas de la mécanique générale. C'est ce qui a déclenché une grève là, beaucoup plus tard. Et ils en avaient marre. Et en salaire de base, ils ont gagné beaucoup plus que les autres, mais enfin, à la fin du mois, là, bon, sur la feuille de paix, ils en avaient moins. Évidemment, il y avait des éléments de comparaison. Oui. Mais ces éléments de comparaison, on n'en avait pas à la mécanique chère. Il n'y avait que des professionnels qui étaient payés au Rouen. C'est-à-dire qu'ils gambergeaient entre eux. Au service des limes, au service des outils, ce n'était pas pareil. Parce qu'il y avait des ouvriers OS. Et il y avait des ouvriers professionnels. Il y a les metteurs au poids, les tourneurs, les machins. C'était des professionnels. Alors, dans un même service, aller faire fonctionner ça. C'était pas facile, je vais vous dire. Elle travaillait aux mèches. C'était pas au lit, mais c'était aux mèches à l'époque. Alors, les mèches, c'est un produit un peu particulier. Et il n'est pas fait avec de l'acier laminé, il est fait avec de l'acier rectifié. C'est-à-dire qu'au dixième de millimètre près, il y a des... je vous ai dit la dernière fois qu'on travaillait sur des machines, c'est des machines de fraiseuses. Et pour que les fraiseuses fonctionnent bien, il y avait ce qu'on appelait des canons extrêmement précis dans lesquels la mèche s'enfilait, mais très juste, hein. Et voilà, ça se passe comme ça, alimentation quasi automatique. Et un jour, elle est venue me trouver, je ne sais pas ce qu'il y a, ça ne veut pas rentrer dans le canon. Ça ne veut pas rentrer dans le canon, puis à coulisses, pourtant c'était mystère. Hein. Tout passait, il y en avait un lot qui ne passait pas. Bon. Et là, il y avait un vieux metteur au point, un erreur, parce que je me suis dit, je crois savoir pourquoi. Je crois que ça va. Alors, les aciers nous étaient arrivés par barre de 2 mètres, là, comme ça. Et le poste de débit d'acier, c'était un poste homme. Un poste homme, parce que là, il y avait quand même une manutention d'acier qui était. On préférait que je confiance à un homme, en principe plus costaud. Alors, c'était lui qui était chargé de débiter l'acier. Alors, débiter l'acier, il ne faut pas qu'il y ait des bavures, pour que ça rentre dans le canon, il faut que ce soit absolument impeccable. Et la cisaille, vous avez les mèches qui vont de 2 mm à 10 mm, enfin une série, de 5 dixièmes par 5 dixièmes. C'est-à-dire que la cisaille fonctionnait et il y avait des canons sur la cisaille qui permettaient à enfiler. Parce qu'attention, il ne s'agit pas de mettre la barre n'importe où, il faut que ce soit très perpendiculaire. Alors, avant la cisaille, un canon, on enfile le truc dans le canon, c'est bien enfuté, ça peut. Et alors, le gars qui le faisait, pour aller plus vite, il était aux pièces. Au lieu de prendre une barre, il en prenait deux. Alors, il y en a une qui fonctionnait très bien, parce qu'elle allait dans le canon, hein, et l'autre allait dans le canon supérieur. Partant de là, la barre était mal tenue, et la cisaille s'attendait. Ça se tournait. Vous voyez, il est évident qu'il, à la fin du bon, il avait des prix très convenables. Seulement, il trichait. Voilà. Ceci, c'est un infime détail qui explique comment s'usent les tarifs. Hein. Nucléaires, Dieu sait si en avant, ont été équipés par le Solitaire. Donc on peut dire que c'est une référence. Et nous supposons que c'est grâce à cette référence que les hypercommandes soviétiques ont été passées au Solitaire. On peut penser n'importe quoi, évidemment, à ce niveau-là, mais enfin, je crois que ça fait c'est le secret de personne. Alors en gros, pour faire assez rapide. Disons qu'il y a la période 1950-1968, où on s'est pas mal débrouillé, mais à part les commandes d'un sous-marin nucléaire, à ma connaissance, il n'y a pas eu grand-chose. C'était un service qui faisait à peu près, entre le cinquième et le quart de chiffre d'affaires de Solitaire. Et puis après, il y a eu, disons, après 68, la commande que nous avons appelée commande CVR. C'est simplement les initiales commande van Russe, c'est tout, c'était un cycle que le machin. Et on pensait que c'était une très grosse commande, et enfin, pour les soviétiques, disons que ça, on l'a su par la paix. C'était simplement une commande d'essai. Et alors, à ce moment-là, tout était emballé dans des grosses caisses et il y avait des trains entiers qui partaient de Saint-Albert à Saint-Julie, à l'exception de l'Union soviétique. Des trains entiers. Hein. Et partant de là, ça a donné, disons, sur du temps, toute autre figure, des trucs assez inattendus. Ou par exemple, les commandes de pointe pour fermer les caisses, les caisses, c'était par dizaines de tonnes. Et à un tel point que les caisses, il y avait la charpente ici, qui était capable, il y avait du matériel. Eh bien non, il a fallu monter une usine exprès pour faire les caisses. Ça a pris une dimension colossale. Les services traditionnels se sont dégonflés pour aller donner un coup de main au vent. Parce qu'il y avait des délais impératifs, vous voyez, à ce niveau-là, les pénalités, ça prend des allures. Alors, nous nous retrouvions en 1976 avec 2000 ouvriers. Les commandes cessant, évidemment, il fallait impérativement revenir à, disons, et accompagner un peu. Il y a eu un choc pétrolier, là, en 1974, il y a eu, disons, un moment de récession, la situation économique en France ne flambait pas tellement. La sidérurgie, n'en parlons pas. Vous avez entendu parler de la sidérurgie Lorraine, c'était le groupe Plouf. Donc, le climat n'était pas tellement à l'optimisme. Et déjà, le saut du Tarn, sans les commandes russes, pas de situation brillante, avec les commandes russes, qui ont procuré, disons, une cagnotte assez, qui nous a aidés à passer quelques années relativement tranquilles, soit dit. Mais bon, d'un seul coup, il y a eu une baisse d'activité absolument phénoménale. Alors là, à ce moment-là, il est évident qu'il y avait 5 ou 600 personnes en trop sur le terrain. Or, il s'est trouvé à l'époque, nous trouvions donc, on parle de l'année 70, mais enfin, elles étaient passées et nous étions en année 80. 81, François Mitterrand est élu président de la République, et peu de temps après, en 82 quand même, il a eu l'excellente idée de venir à Albi. Pourquoi excellente? Parce que, enfin pour nous, un président de la République avec des manifestations dans la rue, c'est pas tellement normal, hein, c'est du plus mauvais effet. Alors nous avons eu droit, disons, à la visite de messieurs Glavany et Blobil, qui se trouvaient à l'époque responsables ou secrétaires de François Mitterrand, qui sont venus nous calmer. Bien longtemps à l'avance, hein, parce que, bon, une visite du président de la République, ça s'improvise pas. Hein, c'est... Il y a le planning, là aussi. Alors, sont venus, alors nous avions assez souvent des réunions à la préfecture, je ne peux pas dire lesquelles, où il y avait des discussions à bâton rompu, ils se forçaient à nous calmer. Et nous, notre objectif, c'était de sauver, disons, au moins 400-450 personnes et de bénéficier des conventions de la sidérurgie Lorraine. C'est une convention nationale. Mais malheureusement pour nous, notre direction n'y avait pas signé. Alors là, il est évident que 400 personnes à la rue, 400 personnes de plus de 50 ans, plus exactement 49 ans et 8 mois, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Alors, on a insisté particulièrement sur cet aspect de la question, et un jour, on a eu une réponse de l'Élysée, disons. Bon, ben. On voit la question, on peut être tranquille de ce côté-là, quoi. Moyennant quoi, ça nous a un peu calmé. Oh, bon, il y avait quelques scamanges par-ci, par-là, mais enfin, bon. François pouvait venir dans les rues d'Albi avec toute sérénité. Il n'y aurait pas envoyé des chaussures ou des œufs. 26 octobre, je crois, Mitterrand-Albi mange le repas, son repas avec les politiques et tout. Au moins 120 à 150 personnes, a lieu au musée d'Albi, musée de Toulouse-Lautrec. Et à la fin du repas, le président nous reçoit, quand je dis nous, les délégués syndicaux, et nous explique la situation. Enfin, plus exactement, il demande fort poliment qu'on lui explique la situation qu'il devait connaître déjà. Enfin, c'est évident que... Il nous accordait pratiquement demi-heure, ce qui est demi-heure d'un président de la République, c'est déjà pas mal. Enfin, nous, on voulait le résultat, ce n'était pas pour les honneurs, on voulait un résultat. Il nous a confirmé que, bon, on pouvait être tranquille à ce que là. Et que si au bout d'un mois, on n'avait aucune réponse, on se manifeste. Se manifester auprès d'un président de la République, ce n'est pas forcément facile au niveau du délégué syndical. Enfin, on y a réussi par l'intermédiaire des politiques. Et parce qu'au bout d'un mois, on n'avait aucune réponse quand même. Et puis après, ça s'est déclenché. Et il y a, à partir de ce moment-là, il y a 400 personnes, Saint-Julien, qui sont venus, devenus sidérurgistes lorrains. Parce que, si un petit tour, je n'ose pas parler d'interloupette, mais enfin, il n'était pas possible. Hein, de la façon dont c'était passé que le saut du Taladère, on ne pouvait pas y adhérer a posteriori. Alors, ils avaient trouvé la solution. Bon, ben, on va les embaucher en Lorraine. et on va les licencier au CISEC. Et à ce titre, évidemment, on a bénéficié de la sidérurgie lorraine.
Une production Phaidos Sonore, août 2009. Ambiance musicale assurée par TDM, Free Music Factory et Anamatopée. Phaidos Sonore, http://phaidosonore.net.